passer des jours à toutes les étoiles.
Si de chaque goutte de sang versé par un enfant, si de chaque goutte de sang versé par un enfant jaillissait un coquelicot, jaillissait un coquelicot, la terre ne serait plus bientôt, la terre ne serait plus bientôt qu'une énorme boule.
Anticlérical, fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique, cet aveu me coûte beaucoup. Mais ces hommes d'église, hélas, ne sont pas tous des dégueulasses. Témoin le curé de chez nous. Aucune de remords. Ce ratichon fit un scandale et rugit à travers les stalles, mort à toute peine de mort. Puis on le vit étrange rite qui battit les marguerites avec l'eau de son pénitier et qui prodiguait les les hosties, le pain béni, l'Eucharistie, aux petits oiseaux du moutier. Ensuite, il retroussa ses manches, prit son goupillon des dimanches et plein d'une sainte colère, il partit comme à l'offensive.
Allô ? Radio Libertaire 89.4. Alors on a un petit problème technique, c'est Jeudi Noir qui devrait commencer. Mais on n'arrive pas à lancer le son. Donc on va se battre un petit peu avec la console et si on y arrive, on fera l'émission. Voilà.
Ce jour-là, le rôle du Christ, bonne aubaine pour le touriste, était joué par un pendu. Et maintenant, quand on croit à ce nous, les païens de sa paroisse, c'est pas lui qu'on veut dépriser. Quand on crie à bas la calotte, à s'en faire péter la glotte, la sienne n'est jamais visée. Anticlérico-fanatique, gros mangeur d'ecclésiastique. Je vous exhorte, camarades, à faire en sorte que ce ne soit pas celui-là.
Viens-t'en, ma chatte, viens-t'en. Pose tes griffes, pose tes dents. Viens ronronner sur le coussin, ma tête contre tes tétines. Viens, ma chatonne, viens, ma féline, ma siamoise belge. Allez, viens. Viens-t'en.
Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui commence avec un petit peu de retard, des petits soucis techniques, mais ça y est, c'est réparé normalement. Donc là, on est avec Michel, moi c'est José, on va vous faire une spéciale littéraire. Donc on va vous chroniquer, vous avez l'habitude, une bonne dizaine de bouquins, pendant que Jean-Mathias a le dos tourné. Donc là, ce qu'on vient d'écouter, c'est Féminas Ghoul, donc un nom de groupe quand même magnifique, hein, formé de Féminazi, l'insulte faite aux féministes, et de Nazgûl, cette créature de Tolkien, du Seigneur des Anneaux. Pourquoi Féminas Ghoul? Parce que l'autrice du bouquin dont je vais vous parler s'appelle Margaret Killjoy, et Margaret Killjoy a fondé le groupe Féminas Ghoul. Donc voilà, on peut faire du black metal et être une super autrice, puisque Margaret Killjoy a écrit Un pays de fantômes en 2014, traduit en France, merci à la maison d'édition Argyle d'avoir traduit en 2022 ce bouquin. Il n'y a pas grand chose de traduit de Margaret Killjoy. Alors c'est un roman, pas vraiment de fantasy ni de SF, c'est plutôt de para-histoire, on va dire. Ça se passe dans un autre monde qui ressemble un petit peu au 18e européen, on va dire. Voilà. Alors, on suit les pérégrinations d'un journaliste au service de l'Empire qui est là pour chroniquer l'avancée de l'Empire, puisque si un empire n'avance pas, il meurt, bien sûr. Et donc ce journaliste suit une armée, mais va tomber dans une embuscade, et il va se mettre à rencontrer les gens qui habitaient ce territoire qui va être envahi par l'Empire. Et ce territoire qui avait été abandonné depuis longtemps, qui était un peu ignoré plutôt, est rempli de libertaires, d'anarchistes. Voilà, donc il va côtoyer des anarchistes. Alors c'est assez marrant, bon, Margaret Killjoy se définit comme une anarchiste militante. C'est assez rigolo parce qu'on a à la fois des villages qui sont plus en communisme libertaire, qui sont assez opposés aux anarchistes individualistes, ils se tirent un peu la bourre, mais bon, face à l'ennemi commun de l'Empire, il faut qu'ils arrivent à communiquer pour pouvoir se battre, prendre les armes et se défendre. Donc c'est un super bouquin que j'ai vraiment aimé. C'est rare d'avoir des bouquins dans cette ambiance libertaire, un petit peu comme Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, qui avait d'ailleurs bien discuté avec Margaret Killjoy, avec quelques points communs. Et voilà, donc Margaret Killjoy, Un pays de fantômes.
Les idées rouges et noires.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4 et c'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa littéraire spéciale en l'absence de Jean Mathias. Et moi, je vais vous parler, pour des raisons assez étonnantes peut-être, déjà du morceau que vous venez d'entendre, qui est un morceau de Le Tigre, Cry for Everything Bad That's Ever Happened, donc pleurer pour tout ce qui s'est passé de mal dans votre dans la totalité de votre existence, si je surtraduis un peu. Et évidemment, José, comme d'habitude, a choisi le morceau avec une grande pertinence, puisque je vais vous parler de Neige Sino, une autrice, qui a écrit un livre qui s'appelle Triste Tigre. Alors c'est un livre qui a été sélectionné pour le Goncourt, tout ça. Donc je vous dis pas pourquoi je suis en train de lire tous ces livres, parce que je vais vous parler que de livres qui ont été sélectionnés pour le Goncourt, mais c'est un secret. Et donc Neige Sino, dans le Triste Tigre, aborde comment c'est un peu plus que ça, mais comment elle a été violée par son beau-père entre l'âge de 7-8 ans et l'âge de 14 ans. Et elle essaie en quelque sorte de comprendre un petit peu cette horreur. Et pour le coup, jusqu'ici, c'est un peu le meilleur bouquin que j'ai lu dans la série des prix Goncourt, parce que elle esquive avec une habileté consommée à peu près tous les pièges qu'on pouvait imaginer sur ce genre de sujet. Et en particulier, alors je rentre pas dans les détails. Pour le coup, c'est vraiment un livre que je vous conseille. Et je voudrais pas trop spoiler, mais une des choses moi qui m'a intéressé, et en particulier par rapport aux autres bouquins dont je vous parlerai par la suite, c'est que elle aborde le problème du mal dans l'existence d'une façon qui me semble extrêmement intelligente, et en particulier par rapport à ce qu'on avait vu il y a très longtemps, les séductions du bourreau. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelqu'un qui va aborder la question du point de vue de son agresseur et de son violeur, pas du tout, parce qu'elle va dire que, c'est une de ses conclusions, mais justement qu'elle pense que ce point de vue-là n'a aucun intérêt et qu'il ne peut rien nous apprendre et que c'est pas le point de vue qu'il faut prendre quand on écrit un témoignage. Et donc ces références sont plutôt du côté des témoins, des gens qui ont survécu à des abominations. Donc voilà, c'était Triste Tigre de Neige Sino, et je vous le recommande.
Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la suite des chroniques littéraires. Donc là, on vient pas d'écouter les Hanson Brothers ni les Ramones, hein, mais ça ressemblait un petit peu, hein, quand même, là, ce morceau-là, assez influencé. C'était le groupe Faux Départ de Lyon, je crois que c'est le groupe d'ailleurs d'un animateur d'une super émission de radio, SAV, hein, sur Radio Canu, qui passe de la très bonne musique. Voilà, le morceau s'appelait Cthulhu. Pourquoi Cthulhu, hein, la tête à Cthulhu? Parce que je vais vous parler d'un bouquin de Victor Laval. Victor Laval, en ce moment, il y a une série à la télé qui passe, qui s'appelle The Changeling. Il est coproducteur de cette série, tirée de ses bouquins. Pas terrible d'ailleurs comme série, mais bref, je passe. Là, je vais vous parler de son bouquin qui s'appelle La Ballade de Black Tom, qui est une novella, donc un bouquin assez court, qui reprend justement une nouvelle de... pas de Cthulhu, de Lovecraft, une nouvelle de jeunesse qui s'appelle L'Horreur de Red Hook, et il réécrit cette nouvelle, mais d'un point de vue d'un jeune mec noir, pauvre, sachant, si vous connaissez Lovecraft, vous savez à quel point le racisme imprègne son œuvre, et en particulier cette nouvelle-là. Donc lui, Victor Laval, il est états-unien, mais d'origine ougandaise, de mère ougandaise, Et donc, il a décidé de retourner un petit peu toutes ces références racistes de Lovecraft, en donnant un point de vue d'un de ces immigrés, entre guillemets, parce qu'aux États-Unis c'est un peu compliqué, en tout cas un de ces étrangers qui faisait tant horreur à Lovecraft, en faisant le héros de cette nouvelle. Voilà, donc c'est La Ballade de Black Tom, 2016, traduit par Le Bélial en 2018, par Victor Laval.
بالأمل كنا بنزرع بالأمل لازلنا نزرع بالأمل
avec l'espoir nous avons planté avec l'espoir nous plantons toujours avec l'espoir un beau matin nous prendrons la faucille dans nos mains et l'espoir deviendra alors réalité un jour viendra où le soleil sera brûlant et le blé jaune, la faucille aiguisée et coupante fera moisson. Avec une jeune fille en armes, l'espoir deviendra réalité. Avec les bras des travailleurs, avec les paysans cultivant la montagne, paysans plantés sans craindre ni déluge ni feu. Un jour, le déluge disparaîtra et le feu deviendra cendre. L'espoir, l'espoir, l'espoir deviendra alors réalité.
Alors vous venez d'entendre un morceau de Colette Mani qui reprenait Mustapha El Kurd, un morceau qui s'intitule La Terre, le Soc, qui est de 1977. Et moi je vais vous parler d'un autre roman du prix Goncourt. Alors une petite remarque générale, nous, en France, on a souvent l'habitude de distinguer la littérature de genre de la littérature. Et la littérature de science-fiction serait souvent vue comme une littérature de genre un peu inférieure à la vraie littérature. Alors là, je me mange beaucoup de, entre guillemets, vraie littérature sélectionnée pour les concours. Et il faut quand même que je dise quelque chose de très très profond et très très cultivé, c'est que c'est de la merde. C'est-à-dire que très fréquemment, c'est pas original, ça explore des thèmes qui ont été rebattus mille fois, dans un style qui est rebattu mille fois. Mais c'est ça qui, entre guillemets, va toucher des prix. Alors là, je vais vous parler d'un truc qui est un peu mieux que ça, mais guère, un bouquin de Gaspard Koenig, Humus, que j'avais envie de traduire par Humus, mais bon, ça c'était ma blague perso, alors dans ce roman, le point de départ est relativement intéressant, mais vous allez voir peut-être très vite les limites, c'est deux jeunes hommes, évidemment, qui sont en train de devenir ingénieurs agronomes et qui s'aperçoivent lors d'une conférence qui va bouleverser leur vie, que la terre, comment dire, que la biodiversité est en train de s'effondrer et que le lombric, parce qu'il produit de l'humus, est essentiel à la survie, en quelque sorte, de nos sols et peut-être de l'humanité. À l'air de terre. Et donc, à partir de là, ils vont suivre de destins très différents. Donc, il y a des observations sociologiques qui sont pas sans intérêt, puisqu'il y en a un qui vient de la petite bourgeoisie parisienne, voire de la moyenne bourgeoisie parisienne, qui est cultivée, l'autre, il est issu d'un milieu agricole. Et ils vont suivre des chemins très, très différents. Et donc, il y a deux, trois remarques sociologiques qui sont pas trop mal. Ensuite, les personnages féminins, c'est une catastrophe. Les histoires d'amour, c'est une catastrophe. Le type, on a l'impression qu'il est écrit en 1960. Et c'est en quelque sorte, et il fait des références d'ailleurs à ça, il fait une référence à Balzac, et on est encore dans un projet balzacien. Et autant j'aime beaucoup Balzac, j'en ai lu, j'en lirai encore sans doute, autant je me dis qu'en 2023 on peut peut-être faire autre chose, on peut peut-être faire un peu mieux, et je sais pas moi, par exemple écrire de la science-fiction. Alors là, je le dis de façon très 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 caricaturale, c'est exprès, mais voilà, c'était Humus de Gaspard Koenig. Le thème est pas mal, le roman est pas honteux, mais je pense qu'on peut faire nettement mieux maintenant.
I am an art loving, music singing, hip hop dancing, crazy girl. I am joyful, full of passion, and will always have an open heart. I am a child growing every day, walking from school to home, trying to survive and being safe. I am my siblings' guardian. I will love and protect them. I cherish them with all my heart. We don't get along very well, but I love them, and I vow I will protect them. Even in my darkest fears, I am a black woman. Who says women can't do what a man can't handle?
Jeudi noir sur Radio Libertaire 89.4, on continue ces chroniques de bouquins. Donc là, on vient d'écouter un morceau fait par le CYC, c'est le Creative Youth Center du Michigan, avec le groupe Triumph, et surtout donc, l'autrice, narratrice, je ne sais pas comment on dit, déclarante, qui s'appelle Kilia. Donc ce sont des étudiants, étudiantes dans un centre pour les jeunes qui ont fait un album de musique. Et voilà, celui-là s'appelait Black Women Are Our Guardians. Les femmes noires sont nos gardiennes. Et c'est, je ne sais pas qui a fait le choix de cette musique, mais c'est quand même parfait. Puisque je vais vous parler de P. J. Lee Clark, un auteur états-unien et moitié États-Unis, moitié Trinité et Tobago, on va dire, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Ring Shout, Cantique rituel en français. C'était en 2020, traduit rapidement par les éditions de l'Atalante en 2021. Et ça se passe dans les années 20. Années 20, États-Unis. Une jeune femme noire, dont les parents ont été assassinés par le Ku Klux Klan, bien sûr, décide d'organiser une milice de femmes noires, mais, et aussi d'une anarchiste allemande qui est là au milieu de ces femmes, de ces autres femmes. Et elles se battent contre les Ku Klux. Alors les Ku Klux sont évidemment des membres du Ku Klux Klan, mais c'est aussi un bouquin fantastique, puisque ce sont des créatures complètement inhumaines qui prennent l'apparence de presque humain du Ku Klux Klan, on va dire, pour en fait dominer la Terre en partant d'une organisation raciste bien implantée aux États-Unis. Alors c'est à la fois fantastique, épique, il y a une épée magique, il y a beaucoup de bastons, il y a des meufs trop badass, ça défonce. C'est un peu gore. Il y a des références à la vraie histoire des années 20 avec le film Naissance d'une Nation de Griffith. Hein, voilà, qui était un hymne au KKK. Et alors, ce qui est intéressant, c'est la traduction, parce qu'il y a beaucoup d'argot des années 20, des Noirs américains, américaines de l'époque. Et donc, c'est un peu compliqué à traduire en français. On n'a pas les mêmes références racistes que ça. Donc, ça ne sonne pas pareil. Mais l'auteur a collaboré avec la traductrice pour cette traduction. C'est compliqué d'avoir ces mots traduits comme ils ont pu, mais le boulot a été fait sérieusement, donc voilà, une fois passé cette petite barrière, on va dire, de la traduction, un bouquin de fantastique intéressant et voilà, inclus dans l'histoire, et voilà. Alors attention, la pause va être très très courte avant d'entendre Michel.
Mais qu'as-tu donc, Marcel?
C'était le Ludwig von 88 que vous avez évidemment reconnu avec un morceau qui s'intitule Marcel est amnésique. Et à partir de là, comme vous connaissez la pertinence légendaire de José, vous savez que, évidemment, vous en avez déduit aussitôt que je vais aller vous parler de Proust. Et en particulier, je vais vous parler d'un livre de Laure Murat qui s'intitule Proust, roman familial. Alors, la lecture du quatrième de couverture de cet essai était assez éprouvante parce qu'on avait l'impression d'être totalement prisonnier dans l'entre-soi parisien, aristocratique, grand bourgeois, sans jamais pouvoir en sortir, avec quelqu'un qui vous explique que Proust est parti de sa famille et que longtemps, elle a eu mal à distinguer l'oncle Albert du baron de Charlus. Et donc, on se dit, non mais c'est quoi cette horreur, quoi. Et bon, à la lecture, le truc est un peu intéressant si vous avez... c'est plutôt bien écrit. Et c'est intéressant si vous avez envie de voir un petit peu ce que ça peut être que la noblesse française. Parce que Laure Murat est issue... c'est une alliance entre l'ancienne grande noblesse d'ancien régime et la noblesse d'Empire, qui, selon longtemps, cordialement méprisée, parce que la noblesse d'Empire venait de nulle part pour la noblesse d'Ancien Régime. Et tout ça s'est entremêlé de beaucoup de réflexions sur Proust. Donc si vous avez une passion sociologique pour l'aristocratie et une passion littéraire pour Proust, ce que je peux tout à fait comprendre, parce que je partage au moins la seconde, c'est lisible. Et après, vous vous apercevrez aussi à quel point, mais si vous ne le savez pas déjà, les riches peuvent vraiment être des enfoirés.
Radio Libertaire 89.4, c'est Jeudi Noir qui se poursuit. Alors on est là un peu vite, donc je vais faire juste un petit rappel des bouquins qu'on a chroniqués depuis le début. Donc Margaret Killjoy, c'était Un pays de fantômes, le premier. Ensuite Michel a parlé de Triste Tigre de Neige Sino. Ensuite j'ai évoqué La Ballade de Black Tom de Victor Laval, la nouvelle Lovecraft inversée. Ensuite il y a Humus, de Gaspard Koenig.
Après il y aura Tarama.
Et Saltiki, pour finir. Ring Shout, Cantique Rituel de P.J. Lee Clark. Juste avant la pause musicale, c'était Laure Murat, Proust, un roman familial. Proust, roman familial. Non, parce que c'est vulgaire, les déterminants. Et là, on vient d'écouter Sourire Kabyle avec un voyage éternel, un morceau de 1995. Je vais vous parler, pas d'un voyage éternel, mais d'un long voyage. C'est le titre d'un bouquin de Claire Duvivier que m'a offert Damien. Merci Damien, super bouquin, super choix. Alors, Claire Duvivier, c'est une autrice que je suis en ce moment. J'ai lu quelques bouquins. Elle a écrit une double trilogie avec son compagnon qui porte le nom de Guillaume Chamanagian. Capital Nord, Capital Sud, donc c'est trois bouquins chacune. Alors j'en ai lu qu'une partie, mais là je vais vous lire un bouquin qui est hors de cette double trilogie, il s'appelle Un long voyage. Donc, Un long voyage, c'est un bouquin assez fascinant. Il met beaucoup de temps à s'installer. On est un petit peu comme dans Un pays de fantômes de Margaret Killjoy, dans un monde un peu parallèle qui pourrait ressembler effectivement à une Europe du 18e également, quelque chose comme ça, mais un peu plus exotique. On a aussi un empire et on suit un enfant pauvre qui se retrouve par les hasards de la vie, qui se retrouve secrétaire d'une ambassadrice impériale, donc une haute fonctionnaire, qui va l'amener à voyager et à voir un petit peu ce qui se passe dans cet empire qui est en train de finir, qui est en train de mourir, un empire mourant. Et il faut beaucoup de temps avant que le fantastique arrive, car il y a du fantastique. Je ne vais pas tout vous dire parce que c'est étonnant, en fait, chaque page est étonnante. C'est magnifiquement écrit, ça faut rentrer dedans, faut prendre son temps pour rentrer dedans. Et c'est un monde complètement particulier, avec plein de réflexions intéressantes. Les persos sont vraiment très très bien vus. Voilà, moi je pouvais continuer à lire d'autres bouquins de Claire Duvivier. Donc celui-là, je vous le conseille, c'est Un long voyage, publié en 2020 aux Forges du Vulcain.
Était au paradis.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour son émission littéraire que nous avons complètement bourrinée parce que ce soir nous n'avons que 11 livres à présenter, alors qu'habituellement sur les littéraires on en fait genre une vingtaine. Voilà, et donc là vous venez d'entendre un petit morceau de Cécilia, une chanteuse, un groupe grand breton. C'est un morceau de 2019 qui s'intitule Refugees, donc les réfugiés. Et c'est parce que je vais vous présenter un autre livre du prix Goncourt, un livre écrit par Vincent Delecroix, qui est aussi philosophe, un livre qui s'intitule « Naufrage », et qui pose pas mal de problèmes, et en particulier, justement, dans ce que je vous disais, dans la façon de traiter le problème du mal dans l'existence. Nashino disait que le point de vue du bourreau n'avait aucun intérêt, en quelque sorte, il ne nous apprenait rien sur pourquoi est-ce que les gens font du mal aux autres. Et Delecroix se pose un peu la même question, simplement il y apporte des réponses qui sont à mon avis beaucoup moins satisfaisantes. C'est-à-dire que il nous ressort la vieille ancienne d'Anna Arendt, de la banalité du mal, sur un concept qu'elle avait élaboré au sujet de Eichmann, le gars qui avait organisé la déportation des Juifs d'Europe vers les camps d'extermination. Et elle avait dit, en gros, Eichmann c'est une espèce de petit bureaucrate, comme ça, qui est terne, qui n'a pas d'idées, et tout ce qu'il fait c'est faire fonctionner la machine, et donc il envoie des gens à la mort, mais comme il pourrait faire transiter des chaussures. Et moi, historiquement, c'était complètement faux. Eichmann était un nazi fanatique qui était heureux de tuer des juifs. Et donc, c'était une ordure finie. Et c'était pas une espèce. C'était un militant nazi. C'était pas du tout une espèce de petit bureaucrate gris qui n'a pas d'idée. Et d'une certaine manière, là, Delecroix, donc, il va reprendre cette idée de banalité du mal, mais pour essayer d'expliquer un petit peu les agissements qu'ont défrayé la chronique il y a quelques années de réfugiés de migrants qui s'étaient noyés entre la France et l'Angleterre en essayant de traverser la Manche avec des fonctionnaires de la marine qui leur avaient fait des réponses absolument ignobles du type vous ne serez pas sauvés, je vous ai pas demandé d'être ici, et vous avez eu 27 noyés, personnes qui sont noyées sur 29. Et donc Delecroix va s'attacher dans la première partie de son roman et la troisième partie de son roman sur le point de vue de la fonctionnaire qui avait été enregistrée à ce moment-là et dont les propos ont fait polémique pour des raisons qu'on imagine tout à fait. Et D'ailleurs, récemment, il y a eu des histoires qui sont sorties autour de ça. On a appris que, comme par hasard, la hiérarchie militaire avait tout fait pour étouffer l'affaire et protéger ses fonctionnaires. Et donc, il part du point de vue de cette femme, qui est un point de vue fictif, et qu'il assume comme fictif, alors que c'est une femme réelle, donc ça pose déjà un gros problème. Et il va, en quelque sorte, nous la présenter comme quelqu'un dont c'est le travail. Et c'est son travail, donc toutes les nuits, elle entend des gens qui sont en train de couler, donc toutes les nuits, elle essaie de faire ce qu'il faut pour les sauver, et dans la journée, elle est gentille, c'est une bonne mère, elle s'occupe bien de sa fille, c'est une mère célibataire, donc la vie est pas facile. Et une espèce de relativisation, je trouve, de l'ignoble qui est très très problématique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être un salopard toutes les minutes de sa vie pour être un salopard, et c'est pas parce que les gens sont pas des salopards à 200% qu'ils ne sont pas des salopards. Et je trouve que d'une certaine manière, là, en quelque sorte, essayer d'explorer l'intériorité de cette personne qui ne répond pas ou qui répond mal à un appel au secours, qui répond pas au meilleur de ses moyens, c'est très très problématique d'un point de vue politique et moral. Et les pages qui sont le mieux, alors ils s'en justifient en disant j'osais pas prendre le point de vue des migrants, des gens qui se noient, je trouvais ça un petit peu indécent en quelque sorte. Sauf que de mon point de vue, alors, ce qu'il dit c'est pas faux, c'est tout à fait entendable, mais les pages qu'il consacre, la trentaine de pages dans son court écrit qu'il consacre aux migrants en train de se noyer dans le canot sont beaucoup plus fortes que celles qu'il va consacrer à cette pauvre fonctionnaire un petit peu fictive qui a fait le mal entre guillemets malgré elle et qui veut expier. Voilà. Donc c'était, je vous parlais de Naufrage de Vincent Delecroix.
Jeudi noir sur Radio Libertaire 89.4, on continue dans les bouquins. Donc là, on vient d'écouter un groupe, je crois qu'il était de Toulouse, de la fin des années 80, Doal 7, avec le morceau Living in Utopia. On passe pas beaucoup de ska punk dans Jeudi noir. Ben voilà, on en a passé un, déjà, un morceau. J'aime bien ce morceau, ça fout la patate quand même. Je vais vous parler d'un bouquin qui n'est pas du tout ska punk, un bouquin d'une autrice qui s'appelle Licam, française. Voilà, donc c'est un roman nommé La Résolution, une résolution tout court, sans déterminant, c'est vulgaire toujours.
Rien à voir avec Boulez.
Rien à voir, absolument pas. Qui date de 2019, publié chez La Volte, hein, une maison d'édition qui propose des trucs assez sympas en SF en général. Alors c'est un bouquin qui va être un peu compliqué à raconter, tant mieux, je ne vais pas trop vous le raconter. Déjà, l'autrice, Licam, donc, depuis sa plus tendre enfance, on a découvert chez elle des tendances neurodivergentes, comme on dit, de manière un petit peu globale, avec des traits autistiques. Après, j'ai pas le vocabulaire, donc je vais pas trop me lancer dans le n'importe quoi. Mais qui l'a poussée à écrire de manière thérapeutique, hein, c'est ce qu'elle dit elle-même, hein, ce qu'elle raconte. Elle a fini par être publiée parce qu'elle a une pas mal de belles plumes, hein, ça n'empêche pas. Et donc là, elle présente un personnage qui est un peu son alter ego, Wen, qui est une personne neurodivergente, queer, libertaire, non-binaire. Et cette personne, Wen, écrit ses pensées sur un blog. Et ça se passe pendant le collapse, hein, le monde s'effondre. Et il y a tout un collège de scientifiques qui est assez intéressé par les idées de Wen et qui va lui permettre d'aller sur une sorte d'île, un endroit isolé, pour essayer de monter son utopie, d'où le morceau « Living in Utopia », où elle va choisir, cette personne va choisir des gens pour établir une nouvelle société utopiste qui servira de modèle peut-être pour une société future après le collapse, l'effondrement du monde tel qu'on le connaît. Donc on se retrouve dans un monde un peu spécial, vraiment complètement artificiel, où Wen a une voix prédominante alors que c'est aussi un monde qui se veut horizontal. C'est un peu compliqué à raconter, mais en tout cas, voilà, encore un bouquin comme le premier de Margaret Killjoy, Le Pays de Fantômes, qui est quand même lié aux idées libertaires. Donc voilà, si vous voulez aller découvrir ce que c'est l'Adelphie, ses principes libertaires, cette utopie, avec tous les problèmes que ça peut causer, donc voilà, il n'y a pas trop de tabou là-dessus. Je vous conseille d'aller lire Licam, Résolution.
Il est pas passé à mes routes, il s'en est jamais servi. T'as soulagé sa vessie. J'en prends le deux. Tous les matins elle est lavée, pas des nanos se bander. Tu lui laves ses culottes, lui dis style des capotes. J'en prends le deux.
Vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. C'est Jeudi Noir qui se poursuit pour sa spéciale littéraire de la Toussaint. Et j'ai dit la Toussaint. Et vous venez d'entendre un morceau des collabos. C'est Halloween. Nous on est pro païen. Voilà. Enfin non plus. En fait, on peut plus rien dire. C'est horrible.
Les
voilà. Fonctionnaire, c'est ça. Et donc là, vous venez d'entendre un morceau des collabos. Ah zut. On s'enfonce. C'est terrible. un groupe punk français des années 80. Et peut-être que vous connaissez ce morceau. Je sais pas si c'était sur KO en France ou sur
France Profonde.
Donc c'est un morceau de 84, donc vous avez voilà Jean-Paul de Médeux, hein. Bap Bap la Bidoupe, c'est le titre officiel du morceau. Et pourquoi les collabos? Parce que justement, je vous parlais d'un livre, d'un roman écrit par une historienne qui est aussi romancière qui s'appelle Cécile Desprairies. Et elle a écrit un livre qui s'intitule La Propagandiste. Et là encore, on est dans les années 40. Là encore, on nous parle un peu du mal dans l'histoire. Et au début, je vous avouerai que j'étais plus que circonspect en lisant ce roman parce que je l'avais confondu avec un autre. Qui s'intitule, je crois, si j'ai bonne mémoire, Vous ne savez pas qui je suis, et qui parle d'une femme qui a été traitée de collabo après la Seconde Guerre mondiale, qui a été tendue et tout, parce que, en gros, elle avait aimé un soldat allemand, mais en fait, bon, la bonne femme, elle dénonçait aussi des gens. Bref, c'était une nazie, quoi. Mais bon, vous comprenez, elle a aimé. Faut arrêter, hein. Elle peut être amoureuse et nazie. C'est pas contradictoire. Et l'un ne sauve pas l'autre. Et donc, au début, j'avais un peu confondu ça. Et alors, le roman de Cécile Desprairies vaut mieux. La propagandiste, c'est l'histoire vue du point de vue de la fille d'une femme qui, justement, a fait de la propagande pour le régime de Vichy et pour les nazis dans les années 40. Et comment ces gens-là, cette femme-là et ceux qui l'entourent, toute sa famille qui était une bande de collabos immondes, en quelque sorte, ont essayé de se planquer après la guerre, ont remâché leur échec, ont glorifié leur vie antérieure sous l'occupation, ont conspué les gaullistes. C'est intéressant parce qu'en particulier, vous avez toute une analyse du double langage de ces gens qui peut être pas mal pour comprendre peut-être comment une partie de la France de Vichy s'est recyclée dans la France de De Gaulle. Il y a de très très belles, il y a de très beaux passages. Sinon, on sent aussi que c'est le roman d'une historienne, c'est-à-dire qu'il y a des moments où elle est trop peut-être didactique et elle veut trop expliquer un petit peu ce que c'était que la guerre. Alors parfois c'est des détails qui ne sont connus que des spécialistes qui sont intéressants. Parfois c'est un peu chiant et on préférerait que elle se concentre sur ses personnages. Donc c'est pas quelque chose de honteux. Pour le coup, il n'y a aucune tentative de justification par l'intériorité du bourreau. C'est vu de l'extérieur, du point de vue de la fille, qui a du mal à comprendre en quelque sorte tous les mensonges et toutes les tentatives de d'enfumage de sa mère. Et donc, c'est honorable, je dirais. C'est pas forcément ce que je dirais avec le plus grand plaisir tous les soirs, mais c'est honorable. Voilà, donc là, je vous parlais de Cécile Desprairies, La Propagandiste.
We'll be right back.
Jeudi Noir sur Radio Libertaire, on va conclure là pour les deux minutes qui nous restent. On vient d'écouter Fiasco, le supergroupe Fiasco, tiré de l'album récemment sorti Le Coup du Lapin. Et le morceau s'appelle Lapin Total. Super jeu de mots quand même. Pourquoi ? Parce que je vais vous parler d'un bouquin qui s'appelle tout simplement Lapin. Lapin, c'est écrit par une autrice canadienne, Mona Awad. Je vais être très bref parce que c'est n'importe quoi ce bouquin, mais c'est super drôle. C'est sorti en 2019, traduit par les éditions Québec-Amérique en 2021. Donc c'est écrit en français du Québec. C'est traduit en français du Québec. C'est l'histoire d'une étudiante pauvre, on va dire ça en français, ça sera plus simple, qui se retrouve dans une fac avec des jeunes riches, et elle observe un groupe de jeunes femmes riches, complètement gnangnans, qui s'appelle Mon Petit Lapin par-ci, Mon Petit Lapin par-là, et elle va se retrouver vite embringuée dans une histoire de secte super gore. C'est complètement absurde, c'est de l'horreur, c'est super drôle. C'est super drôle, touchant, souvent. Un petit bouquin qui se lit assez rapidement et c'est à la fois frais et dégueu. C'est Mona Awad, Lapin, je vous le conseille pour passer un bon petit moment. Et puis on a fini avant l'heure, on est allé un peu vite. Donc on vous a parlé de Margaret Killjoy, Nessino, Victor Laval, Gaspard Koenig, P.J. Lee Clark, Laure Murat, Claire Duvivier, Vincent Delcroix, Licam, Cécile Desprairies, Mona Awad, et vous retrouverez toutes les références complètes sur le site Jeudi Noir, vous tapez gurdulu.org Jeudi Noir, et il y aura tout en ligne dès ce soir, si tout va bien. Voilà. On vous retrouve au mois de novembre. Michel, un mot ?
J'ai failli vous parler d'un roman du Goncourt encore pire que les autres, mais on manque un petit peu de temps, c'est Le Grand Feu, et vous y trouvez de l'amour, Venise, l'eau, le feu, évidemment, des chevaux, et le violon, la musique. Et c'est un festival de clichés. Si jamais vous avez envie de lire un festival de clichés, je vous le recommande chaudement. Autrement, il y a d'autres tas de trucs vachement bien à lire, en particulier ceux dont José vous a parlé ce soir.
Pour que mes légumes s'occupent de son cas. Est-ce qu'il est bon d'être l'ami de cette chère Amélie? Même si mon amour je ne le dis que lorsqu'Amélie est endormie. Amélie, t'a-t-on déjà dit que tes beaux placards fleuris sentent bon désordre la nostalgie? C'est pour ça que je t'aime aussi.
Elle vieillit, saute à petits pas, de petits chiens en petits chats, les bigotes. Elle vieillit, saute d'autant plus vite, qu'elle confond l'amour et l'eau bénite, comme toutes les bigotes. Ah, si j'étais diable en les voyant parfois, je crois que je me ferais châtrer. Si j'étais Dieu en les voyant prier, je crois que je perdrais la foi par les bigotes. Elle processionne à petits pas, de bénitier en bénitier, les bigotes. Et patati et patata, mes oreilles commencent à siffler, les bigotes. Vêtue de noir comme monsieur le curé, qui est trop bon avec les créatures. Elles sont bigotes, les yeux baissés, comme si Dieu dormait sous leurs chaussures de bigote. Le samedi soir après le turbin, on voit l'ouvrier parisien, mais pas de bigote. Car c'est au fond de leur maison qu'elles se préservent des garçons, les bigotes, qui préfèrent se ratatiner de vêpres en vêpres, de messe en messe, toutes fières d'avoir...
Musique en lutte.
Musique en lutte.
Dans les mouvements libertaires.
Le mouvement anarchiste.
Une cause militante, presque insurrectionnelle.
Nous sommes battus.
On peut faire de la musique militante tout en faisant de la pop.
La culture peut changer les choses.
Et que ce soit le peuple qui puisse se faire entendre
contre le pouvoir en place.
Les gens qui ont refusé toute autorité d'où qu'elle vienne.
Tous les chefs du gouvernement représentent le pouvoir. Et en politique, le pouvoir est forcément une forme de la lutte contre le peuple.
1, 2, 3, 4.
Et on est toujours sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître et sans publicité. C'est la deuxième de Musique en lutte, la nouvelle émission autour de la musique et de l'engagement politique. C'est le quatrième jeudi de chaque mois, de 20h30 à peu près, 20h32 on va dire, à 22h. Et pour cette deuxième, on avait envie de mettre en avant toutes celles et ceux qui tentent de faire vivre une musique accessible à tous et toutes, le plus loin possible des circuits marchands, en organisant des soirées autogérées, des soirées musicales. Alors pour nous, une soirée musicale autogérée, c'est des soirées qui font appel à la solidarité et la responsabilité de chacun, chacune. Et puis surtout, des soirées qui nous montrent qu'un autre monde est peut-être possible. Allez, ben, on commence avec le collectif Contre Culture. C'est parti.
Donc vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4 FM dans l'émission Musique en lutte. Aujourd'hui, on reçoit FX du collectif Contre Culture. Donc le collectif Contre Culture, aussi connu sous le nom de CCC, existe depuis environ 25 ans. Et il organise des concerts de soutien, notamment à des luttes anticapitalistes, écologistes et sur l'autodétermination des peuples. Voilà.